toujours à l'émission de littérature sur Radio Campus Orléans avec par téléphone Alessandro Mercuri. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous parlons donc de Peeping Tom qui vient de sortir aux éditions Léo Cher. Alors Alessandro, tout de suite ma première question que j'ai envie de te poser, mais quel est donc ce titre mystérieux Peeping Tom, mais d'où ça vient?
Oui, alors Peeping Tom est un recueil de textes qui est à l'origine issu d'un blog qui avait le même nom, Peeping Tom, ce qui n'explique pas non plus le titre. En fait, Peeping Tom, c'était parti de l'idée du personnage, non pas le film anglais célébrissime, mais plutôt le personnage des origines de l'an 1000, qui avait vu la jeune femme Lady Godiva se promener nue. Il y a toute une histoire très belle anglaise à ce sujet, très très troublante, et il aurait été le seul homme à voir cette femme du Seigneur se promener dans les rues de je ne sais plus quelle ville anglaise. Il aurait été immédiatement arrêté et tel Oedipe, mais pour une raison complètement différente, aurait été arrêté, torturé, aveuglé pour avoir vu ce qu'il ne devait pas voir. Et donc Peeping Tom, en français on connaît le nom du Peep Show, donc a trait au voyeurisme en fait. Donc Peeping Tom, c'est Tom le voyeur, Tom qui a vu ce qu'il ne devait pas voir.
Et ça nous explique la couverture du livre, un peu osé.
Oui, alors il s'agit d'un livre qui est un livre aussi illustré, pas forcément un livre d'art, mais un livre qui voulait être un livre mêlant texte et images, illustrations, photographies, photomontage. Donc la couverture rosée qui est un coït d'après une œuvre de Agostino Carracci qui a illustré les sonnets de l'Arétin. Et donc il s'agit de l'étreinte entre Jupiter... Et Jupiter et Hera, ou Jupiter et Aphrodite, j'ai oublié, mais d'un coït mythologique, une très belle gravure de la fin du XVIe ou du début du XVIIe.
Alors, le livre commence par un texte intitulé Malavita Philosophica, et déjà, rien que par le titre, il nous donne une indication sur l'usage que tu fais de la philosophie. Avec tes textes, est-on dans de la pop philosophie?
Alors, Malavita Philosophica, en fait, c'est directement dans la suite du précédent livre qui s'appelait Kafka Cola. Donc, Malavita Philosophica, en italien, qui se réfère à la mauvaise vie, garçon de mauvaise vie, la mauvaise vie philosophique au sens où il s'agit d'un essai qui prendrait la philosophie non pas en tant que telle, mais comme genre littéraire, et essayer d'approcher la question philosophique en relation à la littérature, au sens où on parle de cette littérature des bons sentiments, et qu'avec ces bons sentiments, on ne ferait pas de bonne littérature, et essayer de voir ce que serait une philosophie de la cruauté, et en mettant en relation des domaines que la philosophie dédaigne, relevant de l'imposture, du mensonge, des domaines qui sont plus proches de la littérature, et pour cela je prends la polémique qui avait lieu entre Schopenhauer et Hegel, et peut-être que Schopenhauer était jaloux du succès de Hegel, mais en tout cas il fait des propositions haineuses, très 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 drôles au sujet de Hegel, en le traitant de charlatan, et donc il développe ce qui pourrait être une philosophie du charlatanisme. Et il remet en perspective et il remet en cause justement tout le système hegelien d'une façon très très drôle et très très troublante par rapport à ce que pourrait être la philosophie en fait.
Parce que tu préviens pour l'utilisation des concepts philosophiques, toujours dans ce texte Malavita Philosophica, est-il besoin de rappeler les origines narratives, mythologiques et fictionnelles des concepts? Et là, on a ton usage des concepts. Et est-ce qu'il est justement cet usage des concepts de les mettre en confrontation avec des histoires, avec de la fiction?
Oui, parce qu'en fait, regarde des textes, que ce soit Hésiode ou Ovide, mais encore plus chez Hésiode, puisqu'on a la théogonie, donc les origines, grand fantasme à la fois scientifique et philosophique. Et donc, à travers ces origines, on se confronte à des entités mythologiques qui sont les ancêtres de Zeus, donc des divinités titans, des divinités qui ont été plongées au fond des enfers et qui ont été oubliées, des divinités qui ont été massacrées par toute cette génération olympienne en fait. Et donc c'était les entités premières qui régnaient au firmament ou autre part, donc Chronos, Uranos, Chaos, et donc Chronos, Chaos, le temps, le chaos. Et donc on voit que nos concepts sont aussi en grande part tirés de ces entités premières dont Aristote parle d'ailleurs dans la métaphysique, en les liquidant assez rapidement comme étant des causes purement matérielles, constitutives de l'univers et nettement inférieures à tout ce qui relèverait des principes premiers. Et donc ces entités avaient une origine narrative, fictionnelle, mythologique, bien sûr au sens du mythe, du récit. Et la philosophie s'est également bâtie là-dessus, puisque lorsqu'on voit toute la philosophie présocratique, qui est une poésie aussi en même temps qu'être une philosophie, elle utilise des concepts qui sont ces entités mythologiques, qui après ont évolué à travers le temps et qui sont devenues, soi-disant, des entités rationnelles et par là même aussi désincarnées. Nietzsche a beaucoup parlé de ça aussi, finalement.
Et tu vas même presque un peu plus loin en parlant de la figure de Don Quichotte comme étant une figure même du philosophe, créature tripartite mêlant le savant, le poète et l'imposteur. Et là, tu écris « Don Quichotte, comme le philosophe, substitue au réel un monde qui s'accorde au concept, un monde qui s'accorde aux fictions. » Et là, tu poses la question « Les concepts sont-ils des fictions ?» Et c'est presque l'enjeu de ton livre, Peeping Tom, c'est de mettre en fiction les concepts et de les utiliser un peu comme tels, non?
Oui, parce qu'en fait, la fiction, franchement, depuis Gilgamesh, Homère, bon, on n'a pas beaucoup avancé, on est toujours dans ce rapport à la fiction, au sens où la fiction parle de fiction, au sens que la peinture parle de peinture, la littérature parle de peinture. De littérature. La fiction parle de fiction et Cervantes, dans Don Quichotte, problématise, bien sûr, c'est bien connu, le statut de la fiction. Et pour revenir à la question, pardon, de ce rapport, j'ai oublié.
C'était le avec Don Quichotte.
Oui, il s'agirait, dans ce cas-là, non pas... moi, en tant qu'auteur de ce livre, d'être un auteur qui revendiquerait un statut d'auteur affirmant une certaine rationalité, non, je suis complètement plongé dans ce même univers. Donc l'auteur qui est un narrateur, et je dis ça parce qu'il s'agit d'un recueil qui n'est pas à proprement parler un recueil de nouvelles, mais de textes, d'essais, le narrateur lui-même, l'auteur, revendique... un regard de paranoïa, d'hallucination, et donc on est finalement dans la fiction. En fait, j'utilise des critères de la fiction, du monde de la fiction, que j'applique à des choses qu'on ne traite pas d'habitude de manière fictionnelle.
Et qu'on ne traite pas non plus de manière philosophique.
Non plus. Peut-être qu'on a une perception un peu restrictive aussi au niveau du champ philosophique, puisque par rapport à ce que tu disais sur cette citation, ça se termine aussi sur cette chose qui est anecdotique. Le livre joue beaucoup d'ailleurs sur l'idée de l'anecdotique comme étant ce que l'on dédaigne comme étant anecdotique, mais l'anecdote aussi comme pouvant ouvrir un champ sur la fiction. Et cette petite anecdote dont je veux parler, c'est ce prix Nobel de littérature qu'a reçu Bergson. C'est quand même quelque chose de très étrange.
En 1927, le prix Nobel de littérature est décerné au philosophe Henri Bergson. Et tu dis que ça consacre cette étrange confusion.
Voilà, et cette étrange confusion, on la voit aussi entre Proust et Bergson. C'est très troublant à quel point on retrouve... du Proust chez Bergson, du Bergson chez du Proust, et à à quel point, chez Bergson, le registre de la littérature et de la philosophie est complètement mêlé, entremêlé l'un à l'autre. Et c'est cette notion-là dont je crois qu'on dédaigne en partie d'appréhender la philosophie véritablement comme une forme littéraire.
Est-ce que tu as...
En même temps, c'est pas nouveau, puisque si on prend les méditations métaphysiques de Descartes, quand Descartes parle du rêve, du songe, de la chimère, du mauvais génie, ça relève aussi d'un artefact, d'un apparatus de fiction finalement, d'enquête aussi.
Est-ce que tu as conçu quelque part, Peeping Tom, comme tu dis, un recueil de textes comme un recueil de nouvelles? Tu as employé le mot nouvelle en disant non, tu l'as rejeté. Mais moi, lecteur, j'ai eu l'impression d'avoir à faire un recueil de nouvelles, pas fictionnel, on va en parler de ça à nouveau, mais un recueil de nouvelles quand même.
Oui, donc nouvelles, parce qu'il s'agit de textes courts. À proprement parler, dans l'ouvrage, il n'y a que véritablement une seule nouvelle. Mais qui en même temps est tellement une histoire vraie pour moi qu'elle n'en est peut-être qu'elle est peut-être qui est peut-être le sujet le moins fictionnel. En fait, fiction, mais fiction sans personnage à proprement parler fictionnel, mais à nouveau avec ce statut peut-être du narrateur, qui logiquement n'est pas censé être un narrateur de fiction et qui s'intéresse à des problématiques qui ont trait à la fiction. Alors là, on parle de manière générique, mais pour donner un exemple. Il y a un texte qui s'appelle Mandrake et Mandrake, qui confronte deux personnages. Donc Mandrake le magicien, qui est l'un des premiers super-héros des années 30, un super-héros un peu suranné, moins connu aujourd'hui, mais qui a influencé beaucoup de gens. Et je le confronte, ce personnage de magie, au prestidigitateur contemporain du personnage de fiction, mais prestidigitateur personnage réel, non pas dans la fiction, prestidigitateur de musical qui s'appelait Leon Mandrake. Et donc, à travers ce texte, on voit une collusion entre deux univers de la fiction et de la réalité, et collusion parce que l'auteur de Mandrake le magicien, donc une célèbre bande dessinée, s'est en partie influencé, s'est inspiré, pardon, de ce personnage de réalité. Réel, et ce personnage réel lui-même a joué ce jeu de la fiction avec l'auteur de Mandrake le magicien. Et bon, finalement, c'est un état de choses très, très américain qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, au sens où peut-être la fiction pour une culture, une nation jeune, joue un rôle de mythologie comme il a pu le jouer chez nous jusqu'aux compilations finalement d'Ovide dans la Rome, après la Grèce.
Mais tu ne t'es pas arrêté là, puisque 50 pages plus loin, tu crées un troisième personnage, t'as les deux Mandrake, et après tu fais un glissement par ce photomontage de Mandrake et de François Mitterrand. Dans un petit texte d'une page qui s'appelle Mandrake et Mitterrand, le magicien et le charlatan. Première photo, on a François Mitterrand dans sa jeunesse avec un haut de forme, et à la fin, avec le petit montage, on a Mandrake le magicien en haut de forme aussi. Là, c'est incroyable, tu arrives à créer un troisième personnage, une troisième analogie avec Mitterrand.
Donc là, ça fait partie de l'aspect purement visuel du livre, donc par image, puisqu'on peut dire que le livre est combine à la fois, est un livre de texte, bien sûr, mais aussi un livre d'images, et les images génèrent une histoire, comme tu as pu le signaler dans cette transformation. Donc il y a une pure transformation optique qui fonctionne parce que c'est des images qui sont à peu près à 10 ans près de la même époque, donc mode années 40, années 30. Et donc pour moi, c'était parce que Mitterrand... c'est le cas pour beaucoup de gens qui s'intéressent à Mitterrand, de prendre Mitterrand comme un personnage romanesque, un personnage fictionnel, lui-même en a joué. Toute cette histoire de l'observatoire, c'est extraordinaire, c'est quand même une... Et là, on rejoint presque un aspect donquichotesque, finalement, mais pas un Don Quichotte de la loose, mais un Don Quichotte avide de pouvoir et qui va réussir sa mission de pouvoir. Et donc c'était l'attrait que j'ai pour ce personnage mitterrandien dans sa forme fictionnelle, en fait. Et très ambigu, et cette ambiguïté, elle m'intéresse parce que le recueil de textes, Peeping Tom joue beaucoup là-dessus, sur l'ambiguïté, sur ce qu'on peut dire vulgairement comme étant, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Et moi, ça m'amuse beaucoup de jouer là-dessus, puisqu'en fait, par rapport au statut de la fiction, ça met aussi en jeu ce que l'on connaît. En français, c'est moins connu, mais bon, c'est connu au niveau des théories narratives appliquées aussi bien à la littérature qu'au cinéma, sur la suspension d'incrédulité, ce qui nous fait plonger dans l'univers fictionnel pour véritablement croire à la fiction. Et donc, dans le livre, on oscille en permanence entre le fait que on nous présente des histoires qui sont vraies, mais que l'on creuse et que l'on prolonge comme pouvant être fausse, et prendre des choses de la fiction comme étant vraies. Donc il y a un jeu permanent entre cette suspension d'incrédulité, donc qui nous plonge dans la fiction, et en même temps d'interroger le statut soi-disant factuel, véritable des faits.
Et là, on voit l'essence même de ton travail qui se travaille sur le lien. Le lien fictionnel, le lien conceptuel, le lien de l'anecdote avec le lien. Et c'est cette mise en lien qui fabrique de la fiction, qui fabrique peut-être des liens fictionnels.
Oui, c'est finalement, c'est le principe de... Ça peut relever de l'analogie, des correspondances. Il y a un lien de toute façon évident entre ce qui relèverait, entre guillemets, même si ça fait un peu prétention, entre l'art poétique et l'art fictionnel. Parce que je crois que la notion de la fiction comme forme poétique est centrale là-dedans. Et donc effectivement, des choses sont mises en lien, des choses que l'on ne met généralement pas en lien. Et c'est bien sûr l'idée de Breton de relier des choses. Plus les liens, plus les éléments sont pas forcément disparates, mais on met en relation des choses qui peuvent être très éloignées les unes des autres, à la fois au sein même... des récits, que entre les récits eux-mêmes, puisque c'est un recueil, mais les choses se suivent d'une façon ou d'une autre au sein du recueil. Et effectivement, c'est cette mise en relation à la fois, donc on disait Mandrake le magicien, Mandrake le prestidigitateur, mais aussi bien dans un autre texte, entre Superman, entre l'acteur et le personnage. Et donc effectivement, le texte fonctionne beaucoup comme ça, sur une polarité en fait.
Ton livre fourmille d'anecdotes par lesquelles tu fais des liens. Est-ce que tu cherches à faire un art de l'anecdote ?
Oui. En fait, c'est l'anecdote. Et moi, ça m'amuse aussi que l'anecdote soit perçue de façon aussi péjorative, parce que le livre joue là-dessus, dans cet aspect sous-culture, de prendre des choses d'aspect un peu vulgaire, aussi trivial, et de les travailler et de les tirailler aussi dans tous les sens pour en tirer d'autres choses. Et effectivement, l'anecdote comme détail qui peut être aussi bien anodin que... En fait, on peut relier... Moi, il y a une lecture qui me marque beaucoup, parce que le texte parle aussi de fiction, mais de représentation et entre guillemets d'histoire de l'art aussi. Et c'est quelque chose qui se rapproche aussi... à mon niveau, et dans un traitement fictionnel, et il faut aussi préciser qu'il y a une dimension humoristique dans le travail. Hein. Moi, je relis ça aussi beaucoup au travail de Daniel Arras, le critique d'art, qui s'intéresse à des détails, par exemple un escargot dans un tableau ou un paysage d'arrière-plan. Et c'est un travail qui... dans la critique d'art, donc ayant trait à des œuvres picturales, moi, m'intéresse beaucoup par rapport à un travail littéraire, en fait.
Il y a un travail donc de l'anecdote, donc il y a un travail de documentation. J'ai l'impression que tu dois être dans un état de veille, toujours à la recherche de la bonne information pour relier à d'autres savoirs. Donc c'est là tout l'enjeu de ton travail, sur les liens fictionnels. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir où intervient la fiction dans ton livre, parce que la fiction intervient. On lit tes textes, on sait qu'il y a quelque chose de l'ordre du fictionnel dedans, et je cherche à savoir depuis tout à l'heure où intervient la fiction. Il y a dans ces liens, on pourrait appeler ça des liens fictionnels, c'est ça l'enjeu de ton travail ?
Oui, c'est-à-dire qu'aussi, il n'y a pas d'opposition à nouveau entre la fiction d'un côté, et puis après, qu'est-ce que serait l'autre qui ne serait pas fiction aussi ? Est-ce qu'il s'agirait d'un discours... je ne sais pas, scientifique, théorique, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait s'opposer à la fiction ou on baigne dans un grand magma mythologique aussi. Et moi, je pars aussi de ce principe. Alors, c'est parce qu'il y a des collusions de recherche, effectivement. Je me permets de prendre un exemple pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Il y a un texte qui s'appelle Turkish Delight et qui commence sur ce rapprochement entre le règne de Louis XIV, donc connu comme le roi soleil, avec un phénomène solaire, du système solaire, d'un assoupissement du soleil. Et donc le règne de Louis XIV correspond en réalité, le règne du roi soleil, au règne du minimum d'activité solaire la plus forte au XVIIe siècle. Et donc je m'amuse, puisqu'il y a quand même aussi l'idée de s'amuser. Alors est-ce qu'on s'amuse en vain, ça je ne sais pas, mais moi je pense que le travail d'écriture peut aussi avoir affaire à quelque chose de ludique, hein, et que l'humour est peut-être une chose sérieuse. En tout cas, je revendique quelque chose, une écriture contre aussi l'esprit de sérieux. Et donc, c'est cette mise en lien avec des éléments qui ne sont pas forcément fictionnels, mais après, dans leurs références de recherche, on se retrouve, si on prend des choses, par exemple, quand je mets en relation un tableau maniériste italien de Rosso Fiorentino avec son critique d'art de l'époque, Vasari, qui lui est presque contemporain. En même temps, chez Vasari, en pleine Renaissance italienne, on a l'écriture, qu'elle soit fictionnelle ou critique, parce qu'en fait, on est aussi déterminé par toutes ces catégories de pensée sur une opposition entre l'écriture fictionnelle, l'écriture non fictionnelle, non narrative et critique. Moi, j'ai l'impression de me situer un peu en deçà de ça, finalement.
Tu parlais que tu t'es levé contre l'esprit de sérieux, et effectivement, il y a des jeux de sens qui sont profonds, parce qu'ils sont à la fois drôles, mais à la fois qu'il y a du sens derrière. Par exemple, il y a ce texte qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Castorama. Avec ce titre-là, je m'attendais à découvrir quelque chose sur le magasin de bricolage, par exemple, et absolument pas, puisque c'était le jeu de mots avec les castors et avec la construction au Canada d'un barrage, d'un barrage géant visible de l'espace. Et là, on a tous dans ce texte, on a la réflexion sur l'animalité, la relation avec l'humanité, et puis on a cette anecdote, voilà, la construction d'un barrage de castors que tu mets en liaison avec le barrage géant des Trois Gorges en Chine, et soudain là, sur la fiction, en tout cas sous forme d'écriture littéraire, je te cite, Alessandro, « En rute, le bélier blatère et le cerf brame, mais seul l'homme saurait déclamer l'éternelle flamme de son amour. L'amour, c'est infini, mis à la portée du caniche de sa bien-aimée. Le bouc béguette, le butor butie, la buse et le chat miaule, mais seul l'homme parle et déparle à foison, à raison, à tort et à travers. » Et on en a deux pages comme ça. Et soudain, on a cette conclusion, quelques paragraphes plus loin, la conclusion sonne, elle, sérieuse. Le temps ne serait-il pas venu d'élargir la notion du langage et de passer d'une phénoménologie de l'esprit à une phéromonologie des esprits? La phéromonologie renverrait aux phéromones, substances chimiques messagères des végétaux et des animaux, comme une porte imaginaire ouverte sur la dimension animiste du monde vivant. Et là, ça calme. Tu passes de l'humour au sérieux le plus grand, tu passes de l'anecdote au concept philosophique. C'est ça ta méthode ?
Alors, il y a une dimension, donc par rapport à l'humour, il y a une dimension de cartoon, les toons, les dessins animés, qui est tout au long du livre. Et je pense que c'est un jeu entre cette phénoménologie d'esprit, mais c'est aussi un jeu par rapport à ce statut. Phrase d'Heidegger, la science ne pense pas, et en dehors de tout l'aspect de la raisonnement avec la technologie, on a l'impression parfois aujourd'hui, c'est un peu méchant, mais que la philosophie ou la littérature ne pense pas beaucoup et qu'on trouve des ouvertures sur l'inconnu et sur de nouvelles significations beaucoup plus dans le domaine scientifique. même si après elles ne sont pas forcément développées elles-mêmes par les scientifiques. Et donc c'est pour ça effectivement que je pense que la je m'amuse avec phénoménologie, phénoménologie, parce que je trouve que les découvertes scientifiques sont des découvertes artistiques, sont pour moi en tout cas beaucoup plus enrichissantes que certaines interprétations un peu laborieuses que l'on peut trouver dans d'autres domaines en fait. Et c'est aussi une question du langage et de la philosophie et du rapport aux animaux, parce qu'il est beaucoup question d'animaux dans le texte.